Bien, bonjour à tous, très heureux de participer à ce colloque au sujet essentiel avec un exemple assez inhabituel pour nous qui a été une expérience, je crois que mes voisins ne diront pas le contraire, très sympathique et enrichissante, même si au départ il n'était pas sans comporter quelques risques puisque ça nous a paru intéressant de parler d'une exposition qui s'inscrit dans une des tendances du moment, des expositions qui sortent un peu du champ habituel de l'histoire de l'art et qui présentent aussi la particularité d'être de porter sur une grande maison encore en activité et donc de poser tout un tas de questions déontologiques sur sa pertinence, son propos, son indépendance, voilà. Et puis comment parler de ce genre de sujet. Donc, je me propose d'essayer de vous donner quelques indications sur notre état d'esprit quand nous avons essayé de relever le défi. Je dis nous parce qu'on y a quand même travaillé à deux avec Laure Dallon, qui est conservateur aussi à la RMN Grand Palais, et comment on a essayé d'abord d'éviter les écueils. Je crois qu'on les a assez bien évités et jusqu'au bout, on a réussi à montrer que ça n'était pas une exposition de marque. Il y a encore quelques confrères de Philippe qui ont écrit jusqu'à encore récemment des articles tout à fait intéressants sur cette tendance et qui citent souvent l'exposition Cartier parce que on ne peut pas ne pas la citer quand on parle de ce phénomène. Mais je crois que tout le monde a quand même bien senti la différence avec d'autres expositions que je ne nommerai pas et qui ont pu fleurir ici et là, quelquefois très jolies, pas toujours complètement scientifiques ou indépendantes. Alors j'ai pas mal d'images, je vais les faire défiler un petit peu vite. Pour insister sur cette question déontologique, je rappellerai que Cartier est une maison qui a énormément travaillé sur son histoire, son patrimoine, évidemment son image, ça comme toute entreprise de ce type, mais qui a la particularité d'avoir fait un gros effort de conservation d'archives et de collections, notamment en reconstituant un énorme fonds de référence, en rachetant des pièces anciennes, pour certaines même du 19e siècle, pour constituer une collection de référence. Et à partir de ce fonds, plutôt de cette collection d'ailleurs que des archives, Cartier a suscité à travers le monde un assez grand nombre d'expositions depuis pas mal d'années. Il y a d'ailleurs eu aussi deux grandes expositions historiques qui ont vraiment fait avancer la connaissance de cette histoire-là, celle du Petit Palais en 89 et puis la grande exposition du British Museum et du Metropolitan. Donc il y a eu déjà des expositions très sérieuses sur Cartier. Il y en a eu aussi du type des exemples que je vous montre, à la Cité Interdite, au Château de Prague, qui était toujours très belle, prestigieuse, avec des scénographes merveilleux, qui jamais pourtant n'ont atteint le degré de spectaculaire que nous avons atteint à Paris. Mais enfin, il y avait déjà des antécédents. Dans le cas de ces expositions, c'était vraiment des choses conçues très largement par la Maison Cartier, qui choisissait aussi le scénographe, qui contrôlait vraiment les choses et qui montrait presque en totalité des objets de la collection historique Cartier. Je ne vais pas refaire l'histoire de cette collection qui serait quand même intéressante. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises de manufactures de luxe ou de qui sont plutôt dans le domaine des arts décoratifs et qui ont eu ce souci de constituer une sorte de musée d'entreprise. Là, c'est la dernière en date qui est venue après la nôtre. Et pour vous donner un petit peu l'esprit, c'est le musée de Denver, qui est un grand musée d'art tout à fait respectable, américain, et qui a montré récemment une exposition que je n'ai pas pu voir, mais dont j'ai vu le catalogue, qui a essayé de tirer profit un peu des expériences que nous avons menées à Paris. Et puis, pour compléter le tableau des difficultés, je vous rappelle qu'une exposition Cartier au Grand Palais posait d'autant plus de problèmes de principe que cette marque a beaucoup utilisé le lieu pour son image, avec des campagnes de publicité spectaculaires et un film que vous avez peut-être vu qui est assez amusant à voir, où on voit les mésaventures de la panthère partant du toit du Grand Palais, traversant le monde entier. Donc le risque était complet, hein, de donner l'impression d'une exposition promotionnelle. Quand la décision a été prise, on a beaucoup réfléchi. Les discussions, justement, avec cette entreprise se sont faites au moment où se faisaient des projets de ce type-là. Et on s'est dit que si on devait faire une exposition, on était d'accord pour relever le défi, le faire nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas chercher un commissaire extérieur pour assumer vraiment, et puis prendre le contre-pied en essayant de faire une exposition comme on l'a fait, c'est-à-dire en conservateur, en historien d'art. Voilà, alors quelques pistes. Je vais vous montrer un peu comment on a essayé de concevoir le propos par rapport à tout cet univers glamour. C'est vrai qu'on a été très séduit par la matière historique et documentaire qui est offerte par ce sujet. En fait, la raison aussi pour laquelle on a accepté de s'y lancer, c'est qu'on avait la conviction que sur l'histoire de l'art du début du XXe siècle, il y a encore beaucoup de petites subtilités sur l'évolution des styles, la naissance de la modernité, la naissance de ce qu'on a appelé l'art déco, dont chacun sait que ça existe bien avant la guerre de 14, mais finalement, il y a encore beaucoup de choses à préciser sur ces questions-là. La puissance de telle mode, de telle évolution du goût, le néo-Louis XVI qui fleurit au tournant du siècle, encore très très dominant autour de 1900, toutes ces questions-là, en fait, la joaillerie y apporte des éclairages très intéressants. D'abord, c'est agréable parce que les objets sont extraordinaires, mais en plus, ça dit aussi beaucoup de choses sur ce qui a pu se passer dans les arts décoratifs à cette époque-là. Bon, là, c'est un exemple d'une installation en cours, d'une évocation des ateliers et des archives Cartier. Là, vous avez tout un ensemble de plâtres qui sont très, très saisissants. Ce sont les empreintes faites systématiquement de chaque bijou. Et qui, ce ne sont pas des projets, mais ce sont, au même titre que les photographies, qui sont aussi très nombreuses et très intéressantes dans le fond. Notamment quelques autochromes vraiment importants. Il y a cette collection de plâtres qu'on a voulu utiliser pour restituer l'ambiance des archives, les registres qui sont très beaux. Enfin, il y a beaucoup d'objets assez fascinants et parlants sur la façon dont cette entreprise s'est développée. Voilà, alors je ne vais pas être trop détaillé sur le concept de l'exposition. En gros, notre idée était de vraiment raconter toute l'histoire. Le titre, c'est Le style et l'histoire. Et d'en faire une étude de l'évolution du goût et montrer en quoi la joaillerie donc apporte quelque chose à l'histoire de l'art, en partant du début et en s'arrêtant assez tôt pour éviter justement de montrer des choses qui seraient disponibles encore dans les boutiques, des choses qui se font assez souvent dans d'autres expositions sur de grandes entreprises prestigieuses. On s'est dit en gros que les années 70 étaient une bonne période pour arrêter le parcours. D'abord parce que à ce moment-là, l'entreprise a changé complètement de statut. C'est la fin de l'époque familiale. C'est la fin du règne de la directrice artistique un peu mythique de Cartier, qui était Jeanne Toussaint, qui a continué à agir jusqu'à un âge très avancé, alors qu'elle était déjà à la retraite depuis longtemps, mais qui était toujours un peu l'égérie et la muse de la maison Cartier. Tout ça s'arrête à ce moment-là. Bon, voilà, il y a une autre histoire industrielle. Et puis ensuite, l'époque actuelle, où l'entreprise cherche beaucoup à se réapproprier sa grande époque prestigieuse. Mais ça, c'est une autre histoire qui ne nous concerne pas. Donc, pour nous, c'était vraiment le récit de cette épopée qui démarre en fait au milieu du 19e siècle. Tout petit, un petit joaillier du quartier des Italiens qui va commencer à faire florès sous le Second Empire. Donc, on a essayé de raconter cette histoire en rassemblant des objets et des œuvres, pas seulement pour l'illustration du récit, parce qu'une exposition, on essaie d'éviter que ce soit comme un livre mis en trois dimensions. C'est toujours un des écueils quand on fait une expo. Il faut que ce soit une vraie exposition. Donc un lieu où les œuvres parlent, sont heureuses, sont belles, se résonnent entre elles, mais où effectivement on aide un peu à comprendre aussi l'histoire. Donc le développement sous le Second Empire, c'était un peu compliqué parce que pour cette époque-là, on a très peu de choses en fait. La collection historique rassemblée par la maison Cartier n'est pas très riche pour cette époque. Il y a quelques objets. Vous voyez cette petite parure en améthyste, mais on a pu quand même évoquer donc les premiers succès de clientèle de quartier, le rôle joué par l'impératrice, le rôle joué par quelques grandes figures de la cour comme la princesse Mathilde, et montrer donc une section sur cette première période où Cartier n'est qu'un joaillier parmi les autres et même un joaillier assez modeste à ce stade. Avec, vous voyez, des choses qui sont dans l'air du temps, dans le néo, les châtelaines, des choses tout à fait dans la production courante de l'époque, avec quand même quelques productions un peu plus prestigieuses. Là, une bien vilaine photo, mais c'est ce que j'ai trouvé pour rappeler l'accrochage des œuvres qu'on a pu emprunter dans les musées pour évoquer cette période. Il y a un portrait de la princesse Mathilde en train d'être accrochée. Vous avez à gauche une vue de son salon de la rue de Courcelles qui est très intéressante parce que ça illustre l'influence énorme qu'a pu avoir la princesse Mathilde dans l'évolution du goût, et notamment cette affirmation progressive d'un goût néoclassique qui remplace un peu le foisonnement éclectique du Second Empire et qui finalement va s'imposer à la toute fin du siècle. Bon, évidemment, on évoquait aussi un petit peu les figures, mais enfin, c'est pas le propos de cette présentation, les figures de cette dynastie Cartier qui va trouver son apogée avec Louis Cartier dans les premières années du XXe siècle, et en même temps, ses ramifications internationales, puisqu'on a trois frères, trois succursales, ils vont se répartir un peu la planète, Paris, Londres et New York, avec les succursales qui vont ouvrir progressivement dans le début du XXe siècle. Voilà, évidemment, quelques documents de dates extrêmement diverses. Un dessin de gauche, c'est un dessin tardif, mais qui évoque l'ambiance de la fameuse boutique de la rue de la Paix, qui a marqué l'installation de Cartier au sommet, hein, s'installer rue de la Paix, c'était en 99. 1899, ça marquait le succès et l'arrivée en haut de la pyramide. On a trouvé dans les archives beaucoup de documents très intéressants sur les aménagements intérieurs de la boutique. Il y a à certaines époques des collaborations très intéressantes. Rateau a beaucoup travaillé pour Cartier, par exemple, au moment de l'exposition universelle. Enfin, il y a toute une matière vraiment très intéressante sur la façon de définir ce fameux style, puisque c'est toute la question de l'exposition. Est-ce qu'il y a un style Cartier ou en quoi cette maison a contribué à créer un style français très spécifique, classique, qui se distingue toutes les autres modes et qui en particulier a complètement ignoré la vogue de l'art nouveau. Ça a été vraiment un des choix stratégiques ou instinctifs de Louis Cartier. Il n'était pas du tout sensible à l'art nouveau, alors que, comme vous le savez tous, la joaillerie a été complètement emportée par cette grande déferlante de l'art nouveau, alors que chez Cartier, on est dans une référence d'abord au XVIIIe siècle, le fameux Marie-Antoinette Revival qui avait été porté par l'impératrice Eugénie, ce qu'on a appelé ensuite le Louis XVI Ritz, au moment où l'hôtel de Charles Ritz ouvre place Vendôme. Tout ça, c'est vraiment une époque très intéressante et qui, en fait, n'a pas été si finement analysée que ça. Voilà, ça correspond en joaillerie à ce qu'on appelle le style guirlande. Je ne vous fais pas un cours sur la joaillerie. On a essayé de l'évoquer en rassemblant des éléments qui témoignent de ce moment du goût. Là, vous avez à gauche une vue d'une vitrine où on montre une robe prêtée par le musée Galliera, un échantillon de papier peint prêté par le musée des arts décoratifs. On a fait beaucoup de recherches pour recréer étape par étape ces moments esthétiques. Là, je vous parle un peu de la conception du projet. On n'a finalement pas emprunté l'objet de droite, qui est la magnifique Psyché de l'impératrice Eugénie, conservée à Compiègne, qui est un très grand objet, et qui était tellement parfait comme contrepoint aux petits objets précieux Cartier, néo-Louis XVI de cette époque. Ça aurait été très éclairant, mais finalement, ça s'est révélé un petit peu risqué, d'autant plus que le salon d'honneur où on présentait cette exposition n'a pas la même climatisation que les galeries nationales, et donc on ne voulait pas prendre de risques. Mais enfin, on avait repéré donc un certain nombre d'exemples de comparaison dans le domaine des arts décoratifs majeurs, disons, puisque malheureusement la joaillerie est encore un peu laissée de côté souvent dans cette histoire. Voilà, l'influence russe. Il y a eu un moment très intéressant au moment où triomphe ce renouveau Louis XVI le moment de la rivalité avec Fabergé, qui a un succès foudroyant à Paris, avec tous ces, évidemment, ces aristocrates russes qui sont présents à Paris. Et Cartier a senti le danger et décidé de riposter en créant des objets dans le même esprit, mais avec une certaine nuance. Voilà, là encore, je ne fais que l'évoquer très rapidement. Mais vous voyez qu'il y a un moment où Cartier est complètement sur les mêmes plates-bandes que Fabergé. Et ça, il fallait évidemment l'expliquer aussi. Alors, un des sujets vraiment intéressants de cette histoire, c'était l'apparition de ce fameux style moderne. C'est le nom qu'on utilise dans la maison. Ça s'utilise beaucoup en joaillerie. On oppose le style guirlande qui existe encore à la toute fin du 19e siècle, qui dure d'ailleurs encore pas mal dans le 20e siècle, au style moderne. Et chez Cartier, il y a clairement, dans les toutes premières années du 20e siècle, une vraie innovation et une position assez nette d'avant-garde dans les formes. Vous voyez, ces petites broches sont des choses des années 1902-1904. Elles pourraient avoir l'air de bijoux art déco. En fait, on a des choses très très modernes qui, finalement, viennent se mélanger assez naturellement avec les objets de type Louis XVI ou néo-XVIIIe. Et c'est avec, évidemment, au passage, la petite touche japonisante qui est passée par là. Mais finalement, il y a une évolution assez naturelle dans cette maison. Du néoclassicisme à la française, avec des réminiscences d'ancien régime, vers la modernité, la géométrie, et l'abstraction et les formes très épurées. Et ça, c'est un phénomène qu'on a trouvé vraiment intéressant. Voilà, évidemment, toute la ressource des dessins de la collection des archives Cartier, puisqu'il y a énormément de dessins, de registres, de cahiers de cahiers d'idées où on jette les premières idées et ensuite les dessins d'exécution. Enfin, il y avait énormément de documents à mettre en regard des objets. Et puis toujours cette idée qu'on avait de mélanger les autres arts décoratifs, la mode. On avait beaucoup de robes dans l'exposition. Robes, mais aussi maillots de bain, manteaux, etc. Des documents d'époque, certains périodiques absolument fascinants, comme la Gazette du Bon Ton, dans laquelle on s'est plongé avec beaucoup de délectation. C'est une revue fabuleuse qui employait les meilleurs illustrateurs de l'époque. Georges Barbier, enfin beaucoup de gens ont travaillé dans la Gazette du Bon Ton. Et ce sont des livres d'art formidables, en fait. Voilà, là encore une comparaison entre des diadèmes en diamant, donc de l'artillerie lourde à gauche, et puis des diadèmes de couture donc en tissu, correspondant à ce qu'on faisait aussi à l'époque et qui était de la collection du musée Galliera. Évidemment, on essayait de faire comprendre le lien avec les grands créateurs de mode, que ce soit Vort au 19e ou Paul Poiret au début du 20e siècle. Voilà, une petite section sur l'horlogerie, avec un exemple de ces personnages qu'on a mis en avant dans l'exposition. Là, vous avez Bonnie de Castellane portant sa montre Cartier. Tout au long de l'exposition, une des idées était de faire des focus sur des grandes figures. Ça, c'est assez classique quand on parle de joaillerie. On aime bien montrer les modèles célèbres, mais on a essayé de le faire de façon un peu plus esthétique, en tout cas posant plus des questions esthétiques que des questions people, même si forcément cet aspect du coup était présent dans l'expo. Voilà des exemples d'horlogerie du tout début du 20e siècle qui sont extraordinaires. Là, je fais pas trop de commentaires sur le caractère fabuleux de ces objets qui étaient quand même un petit peu l'intérêt principal de cette exposition. Voilà, on abordait ensuite le véritable chapitre art déco qui est considéré comme l'âge d'or de l'histoire de cette maison. La plupart des expositions qui ont été conçues jusqu'à présent ont été très centrées sur cette époque, considérée comme l'époque noble. Le reste étant plus difficile à comprendre, supposé moins original ou ensuite décadent après la guerre, ce qui nous a pas paru du tout pertinent. Voilà, bon, pour mémoire, donc c'est la modernité des matériaux, des objets, le cristal de roche, l'onyx, toute cette mode du noir et blanc. L'évocation de l'exposition de 1925, où Cartier s'était fait remarquer en refusant d'être présent comme un vulgaire joaillier dans le pavillon de la joaillerie, et avait voulu être dans le pavillon qui s'appelait le pavillon de l'élégance, ou avec la haute couture, et ça faisait partie de la stratégie aussi toujours de cette maison de ne pas être simplement un joaillier parmi d'autres, et de ne pas être mélangé. Là, vous avez le fameux collier Bérénice, un délirant collier qui n'est qu'en fait une sorte de ceinture qu'on pose négligemment sur ses épaules. Donc, il vaut mieux faire un petit peu attention à ses mouvements ensuite, mais c'est d'un chic complètement insurpassable. Malheureusement, il a été un petit peu démantelé depuis, mais l'émeraude centrale, qui est une superbe émeraude moghole gravée du XVIIe siècle, est toujours conservée et elle était présentée dans l'exposition. Elle est maintenant dans un diadème. Un diadème un peu moins chic, mais enfin un beau diadème qui est dans une belle collection princière, quelque part vers l'est de l'Europe. Enfin, très à l'est de l'Europe. Un numéro spécial de la Gazette du Bon Ton qui était consacré au pavillon de l'élégance et notamment au stand Cartier où vous retrouvez la fameuse Bérénice avec son collier. Le diadème assorti. Bon, là, au passage, on est en pleine ambiance indienne. Ça, j'en reparlerai rapidement ensuite. Et je vais d'ailleurs accélérer un petit peu le rythme des images parce que je crois que j'en ai trop. Alors, l'autre façon d'aborder ce genre de sujet, c'est évidemment la dimension sociologique. L'expérience pour nous a été très enrichissante parce qu'on a, depuis cette exposition, je dois dire, pris des réflexes qu'on n'avait peut-être pas avant d'être délibérément dans le récit social quand on parle d'histoire de l'art, y compris d'art beaucoup plus classique, de peinture, de sculpture. Quand on commence à jouer à ce jeu, de faire intervenir des personnages, de montrer l'objet dans son contexte, de citer un peu leur mémoire, de raconter des anecdotes, c'est difficile ensuite de ne plus le faire. Et en fait, on réfléchit à pas mal d'autres sujets d'exposition dans lesquels cette dimension va être assez présente. C'était d'autant plus intéressant dans cette exposition qu'on rencontre vraiment des figures assez inouïes, comme Elsie de Wolfe que vous avez ici à gauche, qui était une créature absolument dingue, américaine, grande prêtresse du goût, qui a été une des premières décoratrices professionnelles d'ailleurs, et sur laquelle je pourrais vous raconter des histoires croustillantes pendant 2 heures. Donc l'évocation d'un nouveau mode de vie ultra luxueux, avec tous ces objets, ces petits nécessaires de fumeuse, ces vanity case ultra précieux, complètement truffés de matériaux formidables, avec évidemment les influences stylistiques diverses et variées. Vous voyez là le joli fume-cigarette avec son étui à forme, le petit vanity avec les mécanismes ultra compliqués, les nécessaires de voyage. Alors tout ça, peut-être Sylvain et Nicolas vous raconteront un peu comment on a mis en scène toutes ces choses-là. De très beaux projets. On n'avait pas forcément les objets à notre disposition, mais les projets, par exemple, pour les encriers sont très très intéressants dans les années 20. Et ensuite, arrivait une grande partie de l'exposition sur ce fameux souffle de l'exotisme qui a été une des grandes richesses de la joaillerie en général, mais dans laquelle la maison Cartier a été pionnière, puisque Louis Cartier et ses frères étaient très très vite conscients de la nécessité d'occuper le terrain. Ça tient aussi un peu à la nature du travail, puisque la joaillerie implique aussi toute la partie recherche de pierres d'exception, et donc tout un tas de tractations, soit avec les producteurs de pierres, soit avec les grandes familles possédant des collections de pierres, évidemment les maharajas indiens par exemple, les grandes familles russes, où se trouvaient des accumulations absolument inouïes de gemmes exceptionnelles. Donc le voyage était forcément au cœur de toute la stratégie de la maison. Donc, vous voyez des tas de registres très, très intéressants sur les voyages des frères Cartier. Et évidemment, ça va donner lieu dès les années, dès l'après-guerre, en fait, à ce foisonnement de style chinois, de style indien, de style oriental au sens très vague, ou de style égyptien. Avec un goût particulier pour l'Égypte chez Louis Cartier, qui avait, à la suite d'ailleurs de son père, poursuivi une collection d'objets égyptiens authentiques, et une des originalités de la maison était de réutiliser, de remployer des objets antiques dans les bijoux, en évidemment réinterprétant les symboles, voilà, scarabées, etc. Donc une très très belle production dans le domaine de l'égyptomanie. comme pour beaucoup d'autres formes artistiques, on voit l'écho du style ballet russe qui introduit une forme d'orientalisme très spécial. Hein. Bon, ça c'est bien connu, bien étudié, mais c'est très précis dans notre domaine, avec par exemple des associations de couleurs qui franchement sont des nouveautés, qui même étaient considérées comme de mauvais goût jusque-là, mais qui deviennent très à la mode. Ce côté flamboyant du rouge et du vert, là on avait présenté ce portrait de Jacques-Émile Blanche de la Karsavina dans L'Oiseau de Feu, je ne sais plus très bien. Donc grand portrait qui accompagnait toute cette nouvelle forme de joaillerie des années 20 avec des couleurs complètement qui à l'époque étaient complètement kitsch et inédites. Voilà, et on évoquait tous les voyages, on a de très jolis souvenirs, comme cette sacoche de voyage de Louis Cartier, avec sa petite inscription Bombay. Tout le rapport avec les Maharajas, spécialement la cour du Maharaja de Patiala. On avait la présentation dans l'exposition du fameux collier que vous avez là, porté par lui. Et vous remarquez qu'il a autour du cou aussi un petit complément qui est ce collier de chien. Qui est conservé lui dans une collection privée, et on a pu emprunter le collier de chien qui conserve encore ses gros diamants jaunes d'origine, alors que dans la parure complète, les diamants les plus célèbres, qui sont des grands diamants comme le De Beers, etc., ont été démontés. On a retrouvé en fait cette parure récemment, et il y a beaucoup de très beaux diamants énormes, mais pas les plus gros du centre, alors que sur le collier de chien, oui. Là, vous avez les petits essais d'éclairage. Il y aurait beaucoup à dire sur les choix, la façon d'éclairer les bijoux. Pour le coup, nos amis de la maison Cartier, qui nous ont laissé une paix assez royale, avaient quelques inquiétudes sur nos souhaits de faire un éclairage plutôt d'évocation, très doux, ne faisant pas rutiler les objets, parce que eux ont l'habitude de mettre la sauce sur les bijoux. Il faut que ça brille beaucoup. Et on a pris un parti très différent. Là, la photo est un peu trompeuse. On avait, je crois, une lumière assez étonnante et assez inédite pour une exposition montrant des bijoux. Voilà, donc l'Inde, évidemment, ça a été la source de certains des grands succès de cette maison. Le fameux style dit ensuite « tutti frutti », qui est fait avec des émeraudes gravées, par exemple, des pierres un peu de qualité inférieure, mais qui mélangées ont donné ce nouveau style. Là, vous avez Daisy Fellows avec son fameux collier tutti frutti qui a été racheté par la collection Cartier. Voilà, ces exemples un petit peu exotiques, l'Extrême-Orient. Alors, ce qui est amusant, c'est que le Japon, c'est tout à fait une autre histoire. Le japonisme, c'est pas un exotisme. On a vu déjà son influence dans le développement du style moderne. On l'a pas traité dans cette section parce que c'est autre chose. Avec la Chine, on se lance dans des délires de petits motifs chinois. Le Japon, c'est différent. Ça a été vraiment une école de certaines formes décoratives simplifiées, beaucoup plus qu'un fantasme exotique. Voilà des objets chinois, dont une pendule mystérieuse. Donc ça, c'était la section centrale avec une des fiertés de la maison Cartier. Là, il y aurait une longue histoire, mais je vais déjà être trop long. Donc je ne parle même pas des pendules mystérieuses et de leur histoire incroyable. Et je vous dirai encore moins le secret si vous ne le connaissez pas. Enfin, vous voyez qu'en gros, les aiguilles tournent dans le vide et on ne sait pas comment ça marche. Voilà, en fait, ça a été inventé par un magicien et repris ensuite par Cartier et ensuite par quelques autres. Voilà, pour la suite du propos, je pense que là je vous ai expliqué un peu l'esprit dans lequel on a conçu l'exposition. Je vous montre assez rapidement comment ça se poursuivait avec l'évolution du style dans les années 30 et 40, correspondant aussi à la grande époque de Cartier New York, sur laquelle on avait une petite section spéciale, avec ses méthodes aussi de promotion très originales, des choses que Cartier n'a jamais fait évidemment à Paris, mais des associations avec Air France, avec Cadillac. Un chapitre spécial sur une des plus grandes clientes de Cartier, qui était l'héritière de General Foods, qui avait donc une certaine marge de manœuvre en matière de joaillerie, et qui a fondé un musée à Washington, qu'on oublie souvent quand on va à Washington, mais qui est formidable, qui s'appelle Hillwood, et dans lequel sont conservées des collections en tout genre, hein, mais entre autres, évidemment, ses bijoux. Et là, on avait un exemple très passionnant de quelqu'un qui s'est fait représenter souvent portant ses bijoux. Donc on avait vraiment le portrait et l'objet à notre disposition. Même chose ici, vous voyez, elle avait une très belle broche de style indien avec des émeraudes gravées. Et on se rend un peu plus compte quand c'est porté de ce que ça donne. Alors souvent, le bijou porté a beaucoup plus de poésie que tout seul dans sa vitrine. Dans certains cas, c'est plutôt l'inverse. Vous voyez, là, on est très fasciné par cette broche qui est un objet des mille et une nuits merveilleux. Quand on le voit sur Madame Post dans ce tableau immonde, c'est sûr que c'est un peu plus dur, mais ça situe le... C'est la première fois qu'on exposait vraiment une peinture atroce au Grand Palais, je pense. Il fallait cette occasion. Voilà, un petit peu la mise en scène, ça peut-être on en reparlera après. Le volume des objets tout à fait étonnants, le bracelet de Marlène Dietrich, offert par Gabin, etc. Il y a toujours beaucoup de petites histoires savoureuses à raconter. L'évocation des grandes pierres, parce que là c'est un aspect essentiel du travail du joaillier. À gauche, vous avez la reine d'Angleterre portant sa broche fleur qu'on avait dans l'exposition, avec un diamant rose très célèbre au milieu. À droite, on l'a pas eu finalement, l'étoile d'Afrique du Sud. Ça non plus, on n'a pas eu le Burton que portait Liz Taylor sur cette photo. Et à gauche, vous avez un objet mythique qui est la perle Peregrina, supposée la plus belle perle qu'on ait jamais connue et qui a appartenu à Philippe II, à la reine Marie d'Angleterre et à Liz Taylor qui l'a fait remonter dans un collier comme ça, alors qu'avant elle était sur un très beau bijou. Alors, comme pierre vraiment exceptionnelle, on a pu emprunter dans une collection royale ce saphir célèbre qui a appartenu à Marie de Roumanie. Vous avez cette photo que j'adore de Marie de Roumanie, qui était un personnage incroyable, portant ce long sautoir avec son gros saphir qui pesait combien, 460 carats, j'ai oublié. Voilà, l'évocation de la vogue des pierres semi-précieuses qui viennent s'introduire, y compris dans la grande joaillerie d'apparat, les diadèmes. L'influence de la duchesse de Windsor qui était très friande de ces pierres fines, qu'on préfère appeler fines maintenant. Son goût un peu kitsch et pop qui a eu beaucoup d'influence sur la joaillerie. Le fameux flamand qu'elle a commandé à Cartier, que le duc aurait dessiné en grande partie lui-même. Une partie sur le cas particulier du rubis qui pour les amateurs de joaillerie est la pierre magique la plus sublime, la plus rare, et le palmier que vous voyez est supposé contenir un groupe de rubis parmi les plus extraordinaires qui soient. Liz Taylor avec son petit collier de rubis qu'on lui a offert alors qu'elle se baignait dans la piscine. On avait le petit film où elle laissait son collier en maillot de bain dans la piscine. Voilà. Et puis, voilà, je passe un peu plus vite la suite de l'histoire. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup développé les années 50, le style pop, les bijoux naturalistes, parce que l'histoire de Cartier n'est pas du tout terminée à ce moment-là. On a encore Jeanne Toussaint bien présente et beaucoup de choses de cette époque-là sont très originales et très novatrices. Voilà, c'est l'époque des petites bêtes, des oiseaux, des animaux. L'époque où un nouveau type de photographe travaille pour Cartier, ici Irving Penn, avec quelques photos un peu célèbres. Et puis, on arrive là à la limite, ici on est dans les années 70, donc on est tout à fait à la fin de notre parcours, avec les délires de Maria Félix, qui arrivait, selon la légende, chez Cartier avec un bébé crocodile, en leur disant « voilà ce que je veux ». Et dépêchez-vous, parce qu'il grandit vite, donc si vous traînez trop, il vous faudra davantage de diamants. Et donc, voilà. Et on concluait l'exposition avec le symbole de la panthère qu'on reprenait de façon un petit peu transchronologique en évoquant la fameuse Jeanne Toussaint dont je vous parlais, personnage sur lequel a été écrite une biographie romancée assez drôle, que la maison Cartier n'aime pas trop parce qu'il y a des histoires un peu non autorisées dans la vie de Jeanne Toussaint, qui est une de ces figures incroyables du Paris du début du siècle, une vie en fait plus aventureuse qu'on ne pourrait croire, et en tout cas qui a été l'incarnation du style Cartier. Et on l'a surnommée elle-même la panthère, et c'est elle qui a aussi développé toute cette idée autour de la panthère. Là, vous avez une très jolie publicité de Georges Barbier de 1914, Et puis voilà, tout ça, vous connaissez l'histoire de la panthère, la fameuse broche de la duchesse de Windsor. Et on a remis ça en contexte autant que possible en repérant des œuvres, en travaillant aussi sur les cahiers de travail des dessinateurs de l'atelier, en consultant leurs ouvrages de référence, puisqu'il y avait une bibliothèque que Louis Cartier mettait à leur disposition. Et donc on a essayé de présenter les œuvres les plus pertinentes en dialogue avec ces objets. Et voilà ce que ça donnait, par exemple, dans la partie finale consacrée à la panthère. Et pour parler plus de façon plus concrète de la mise en espace et en atmosphère de ce projet, je laisse la parole à mes deux compères que vous voyez là en pleine installation de la vitrine de pendules mystérieuses. Alors je ne sais pas si on enchaîne directement parce que j'ai déjà été un peu long. Et puis voilà.